dal mondo antico e dal mondo futuro era rimasta solo la bellezza. E tu, povera sorellina minore, quella che corre dietro i fratelli più grandi e ride e piangi con loro per imitarli. Tu, sorellina più piccola, quella bellezza l'avevi addosso umilmente, e la tua anima di figlia di piccola gente non ha mai saputo di averla, perché altrimenti non sarebbe stata bellezza. Il mondo te l'ha insegnata, e così la tua bellezza divenne sua. Spari come un pulviscolo d'oro.
Merci beaucoup. Nous venons d'entendre Lupo Franceschi qui vient de lire un texte de Piero Pasolini, voilà, je vais y arriver, pardon, excusez-moi. Et c'est notamment un extrait qui est lu jusqu'à samedi soir au théâtre du Grand Rond, dont c'est un objet un peu particulier. Alors, je ne sais pas comment on peut le présenter, c'est à mi-chemin entre la conférence théâtralisée, il y a aussi des projections, enfin, vous allez me l'expliquer. C'est proposé par la compagnie Larousse, c'est mis en scène par Laurent Suriou, et donc il y a Lupo Franceschi que nous venons d'entendre, Marine Louard, je sais bien votre nom,
Louard.
Héloïse Bernabéu, voilà, et Jean-Marie Champagne, lui je le connais depuis plus longtemps, alors c'est plus facile pour moi.
Moi c'est Champagne.
Bonjour.
Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Donc Jean-Marie Champagne, oui, nous nous connaissons depuis un certain temps, il est venu plusieurs fois ici, mais vous, là, ne touchez pas le micro, jeune homme. Les deux jeunes comédiennes et le jeune comédien, vous avez fait la formation cette année en 2023 au Hangar, donc avec entre autres Laurent Suriou, mais pas qu'elle, puisqu'il y a plusieurs intervenants, et dont Laurent Suriou vous a embarqué dans cette aventure, si je puis dire. La formation et hop sur scène.
Oui, exactement.
Mais puisque vous avez la parole, gardez-la. Avant de faire cette formation, vous aviez une autre formation théâtrale?
Alors moi personnellement, j'ai fait le théâtre du jour à Agen.
Oui, à Pierre de Beauche.
Avec Pierre de Beauche, une école qui a fermé du coup l'année dernière. Voilà.
Vous avez fait les 4 ans, c'est ça?
C'est 3 ans.
3 ans, d'accord.
C'est un cursus de 3 ans.
3 ans, d'accord. Voilà. Et après, comment avez-vous connu le hangar, enfin, la formation du hangar, pardon?
Eh bien, en fait, justement, au théâtre du jour, il y avait beaucoup d'élèves qui ont fait le hangar ensuite. Et c'est un parcours qui a été beaucoup fait. Mmh. Et donc, ces élèves-là nous ont parlé de cette école. Et c'est comme ça que je suis allé faire le stage. Et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai été sélectionné, donc j'ai fait la formation.
Et oui, puisque c'est sur entretien, c'est dossier. Héloïse, qui venait de Paris, m'aviez-vous dit hier soir?
Oui, absolument. Moi, je viens de Paris. J'ai fait d'autres... J'ai 27 ans, je me suis mise au théâtre assez tardivement.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire il y a 2 ans.
Ah oui, effectivement.
Et j'ai commencé par une formation à Paris, et ensuite j'ai entendu parler de Toulouse, et je suis venue à Toulouse exclusivement pour la formation du hangar.
Et à Paris, c'était avec qui?
C'était une école qui s'appelle Les Enfants de la Comédie, en banlieue parisienne, à Sèvres. C'est Karine Catala qui a créé cette école. Elle n'est pas très connue, on est peu nombreux.
Mm-hmm. Et comment avez-vous connu le hangar, puisque vous étiez à Paris?
Eh bien, j'ai connu par des rencontres dans le milieu du spectacle, et finalement, cette formation m'a été conseillée à plusieurs reprises, donc j'ai fini par regarder ce que c'était, et par postuler.
D'accord. Et vous avez été, comme dirait votre
oui,
confrère,
absolument.
Vous avez été admise.
Oui, voilà.
Marine, même question.
Oui, donc moi, j'ai plutôt été dans le monde de la danse et du chant avant. Et, voilà,
la danse contemporaine.
Danse contemporaine, voilà. Et j'ai fait une école en Allemagne de performance et improvisation. Et dedans, à l'intérieur, il y avait aussi du théâtre, mais c'était beaucoup plus porté sur le corps. Mmh. Et donc voilà, j'ai voulu intégrer
compléter.
Plus la voix, compléter. Et j'ai rencontré une personne l'été dernier qui m'a parlé du hangar. Et donc du coup, je me suis dit, allez, direction Toulouse. Et j'ai aussi été admise, du coup.
Et vous veniez de quelle ville ou de quelle région?
Je venais de Bretagne.
D'accord.
Mais j'avais passé 2 ans en Allemagne, dans la Forêt-Noire, à Freiburg. pour okay. cette école.
Grande voyageuse.
Voilà.
Et donc, Jean-Marie Champagne, vous, vous travaillez depuis relativement longtemps, disons, au hangar. Vous faites partie de l'équipe de programmation, me semble-t-il.
Oui,
et vous intervenez souvent. Hein. Non, enfin, vous, moi, je vous ai souvent croisé dans différentes, dans différents registres, pardon.
Oui, 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 on peut dire ça, oui. Oui, oui, ben, je fais partie de l'équipe de programmation, donc avec Laurence Rioux et Didier Roux, qui sont à l'origine du hangar et de la compagnie Lohengrin, qui ont pris le relais sur le lieu qui s'appelait avant l'espace vide, dans lequel
voilà, il y avait Bratoef qui s'en occupait.
Voilà, Georges Bratoef. Moi, c'était avec lui que j'avais commencé à faire du théâtre, à pratiquer le théâtre. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais rencontré Laurence et Didier. Voilà, et après, quand le hangar a pris la suite, ben, voilà, je suis resté attaché à ce lieu et à participer, notamment à la programmation, l'organisation du festival Les Bruissonnantes. Voilà.
Et vous interveniez aussi quand il y avait eu des lectures aussi autour d'œuvres d'art, puisqu'il s'agit d'art. Là.
Oui, alors là, ben, ce spectacle-là, qui n'est pas un spectacle.
Et oui, c'est un objet un peu particulier, si nous pouvons.
Je me suis planté là, il faudra couper le montage.
Ah, ça, c'est raté.
Donc, cette proposition.
Voilà, artistique.
Voilà, tout à fait, qui est à la fois un peu. Voilà, qui tient des arts plastiques et, de, et de la présence scénique. Ça, ça s'origine, oui, effectivement, dans une participation qu'on faisait au Festival des théâtres près de chez vous, à partir de 2011, je crois que c'était la première édition. En tout cas, c'était cette année-là qu'on avait proposé pour la première fois ces lectures d'histoire d'art, accompagnées de projections d'œuvres qui étaient commentées dans les textes qu'on lisait. Donc c'était des lectures à plusieurs voix, voilà, on se relayait au plateau, ça durait sur 4 heures, toute une demi-journée. Il y a eu certaines années où c'était sur deux jours ou trois jours. Voilà, et une des premières. Donc, ça, c'était une proposition à l'initiative de cette proposition. C'était Laurence Rioux.
Qui aime beaucoup les arts, la peinture, enfin.
Qui... Voilà, oui. Qui s'intéresse voilà, beaucoup aux arts plastiques et à leur lien aussi, à la façon dont on peut les relier à la création scénique. Mmh. Voilà, scénique, musicale, poétique en général. Et donc, cette première année, notamment, bon, chaque année, il y avait une thématique un peu différente. La première année, voilà, c'était des textes de Daniel Arras, qui est un historien d'art contemporain, enfin, qui est décédé il y a quelques années.
Cette maladie horrible qui est la... comment on appelle ça ? Ah, mince !
Alors ça, je ne sais pas.
Si, moi je l'ai cherché hier soir, en plus, allez. C'est ça le bouquet. C'est la personne se paralyse, d'abord ce sont ses membres.
D'accord. Ah oui, je vois, oui, une sorte de... Sclérose en
plaques. Non, c'est beaucoup plus important que la sclérose en plaques.
Oui, oui, oui. Oui, je vois à peu près ce que c'est. Bon, je ne connais pas le nom.
C'est une maladie qu'à l'heure actuelle, apparemment...
Oui, ça répond.
La science peut-être, ne s'est pas soignée.
Oui, ça fait partie peut-être des maladies auto-immunes ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, oui, du coup, lui, voilà, c'est...
A beaucoup écrit pour l'art, il est spécialiste de la Renaissance, enfin de l'art...
Oui, notamment de la Renaissance italienne,
ouais.
Voilà, tout à fait. Et donc là, les textes qu'on lit sont extraits de deux livres, c'est trois textes de lui, trois textes différents, voilà, qui traitent de divers tableaux de cette période-là, quoi, de la Renaissance italienne. Voilà, donc ça c'était la première proposition qu'on avait fait pour des théâtres près de chez vous. L'année suivante c'était sur l'art pariétal, donc là il y avait des extraits d'un texte de Georges Bataille sur Lascaux, je crois. Après des textes plus scientifiques de Jean Claude notamment, qui est un grand spécialiste de l'art pariétal en lien avec son hypothèse à lui qui était que cet art-là était lié à des pratiques de chamanisme. Bon voilà, et les autres années, voilà, il y avait eu d'autres lectures, y compris aussi des lectures d'écrivains qui ne sont pas du tout historiens d'art, quoi, mais qui commentent des tableaux, qui écrivent, voilà, il y a des très beaux textes comme ça, par exemple de Duras, bon là c'est celui qui me vient, de Foucault, Michel Foucault, enfin voilà, de Michel Léris aussi, qui a notamment écrit un fameux texte sur l'Olympia de Manet. Dont on parle notamment aussi dans ce spectacle.
Cette proposition artistique originale, dirons-nous.
Voilà, tout à fait.
D'accord. Dans les... Puisque bon, Jean-Marie et Champagne a déjà travaillé avec Laurence, mais vous, les... ces trois, enfin les deux étudiantes et l'étudiant, puisqu'on peut dire comme ça, puisque vous avez pris des cours avec elle, quand elle vous a proposé de comment dire, que vous soyez sur scène, mais à partir d'œuvres au départ picturales, quelles ont été vos réactions? Est-ce que vous vous êtes dit, mais de quoi elle nous parle là? Nous faisons une formation en théâtre? Ou est-ce que c'était déjà, vous saviez déjà qu'elle était très attirée par la peinture, et est-ce que dans sa partie à elle d'enseignement, puisqu'il y a Didier Roux, il y a aussi, ils sont combien, trois, quatre, voilà, il y a aussi une danseuse,
Antonia Ponscapo, voilà, la professeure de danse.
Oui. Est-ce que déjà, Laurence, vous avez évoqué cette, comment dire, cet appétit qu'elle a pour tout ce qui est art plastique, ou pas?
Moi, j'ai pas le souvenir qu'on en ait parlé particulièrement. Après, elle a des inspirations culturelles très variées, qui viennent de plein. Ça, c'était sûr, qui viennent de plein d'endroits, de films, de livres et de la
peinture. Oui, elle s'inspire de différentes.
Oui, exactement. Et de la peinture, je pense qu'on savait pas. Et en fait, lorsqu'elle nous a proposé de rejoindre ce projet, c'était pas encore. Enfin, en fait, la façon dont elle l'a proposé, c'était d'abord en réévoquant une séquence qu'on a créée lors de notre module, donc lorsqu'on l'avait en professeur, qui est le module dans lequel, avec Marine, on fait la poupée
désarticulée,
où Marine est en Marilyn. Mmh. Oui. Et initialement, c'est cette séquence-là qu'elle voulait reprendre. Et c'est par la suite qu'elle nous a expliqué comment est-ce que ça s'articulerait avec des lectures. Mais ce qu'on a en fait découvert la première fois qu'on s'est vu à la première répétition, on ne savait pas encore avant.
Voilà. D'accord. Ok. Dans une surprise un peu, d'une certaine manière.
Ouais, un peu une surprise. Mais du coup, on a le plaisir de découvrir ces textes. On a lu d'autres textes aussi. Ensuite, Laurence a retenu celle qu'elle souhaitait garder.
Oui, c'est un montage de texte.
Voilà, c'est un montage. Enfin, elle appelle ça, en fait, pour le dire, une proposition et des trouées théâtrales. Faites de trouées théâtrales.
D'accord.
Proposition de lecture et des trouées théâtrales.
Parce qu'en fait, il y a deux époques. Donc, il y a l'époque de la Renaissance, avec les œuvres de Le Titien et
de Vinci.
Vinci, de Léonard de Vinci. Donc ça, c'est Renaissance, puisque les deux sont nés au 15e siècle, oui, c'est ça.
Oui, à la fin du 15e siècle.
Et sont décédés dans le 16e. Et ensuite, bon, il y a le texte que nous avons entendu, Pasolini, donc ça, c'est beaucoup plus contemporain, enfin, disons, c'est 20e siècle. L'allusion à Marilyn, non, je ne savais pas, je m'étais posé la question de savoir si on pouvait le dire ou pas, mais puisque vous le dites, ben, je le reprends.
Ah oui, bien sûr.
Voilà, donc ça aussi, c'est relativement contemporain, c'est aussi 20e siècle. Donc il y a comme ça, je ne sais pas si on peut parler d'opposition ou de différence, c'est comme ça, j'imagine, un dialogue entre deux époques par rapport à comment on regarde l'art, mais aussi la place de la femme dans l'art, me semble-t-il. Enfin,
Ben, absolument, je pense que... Je pense que c'est au centre de la proposition. Et après, je pense que c'est pas non plus... Il n'y a pas un propos évident que Laurence décide de soutenir.
Oui.
Au contraire, c'est plutôt la construction de séquences qui, de fait, tournent autour de ça, presque comme un hasard, même si c'en est pas un, et que le fait de faire un montage de ces séquences-là et de superposer toutes ces choses-là permet une forme de projection de la part du public sur... Quel pourrait être le propos? Il y a aussi une séquence, un texte qui est dit, donc, qui sort d'une enceinte, c'est la voix de Laurence, sur un chant d'oiseaux qui traite de la Révolution, où là on ne parle pas directement de l'image de la femme. Bon,
oui.
Du coup, on voit un peu la direction qui est prise. Mais,
une image de la femme pouvant s'inscrire aussi des fois dans une certaine révolution.
Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas
directement
axé, bien sûr, quoi,
là-dessus. Oui, c'est pas présenté comme tel, mais c'est comme ça, des morceaux épars, si on peut dire, et puis c'est un peu comme un jeu de construction, quoi.
Oui,
quelque part.
Oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est juste... je pense que l'envie de Laurence vient de réunir ces séquences-là. Après, pour cette proposition, on a aussi créé une nouvelle séquence de poupées qui n'existait pas avant. Et là, encore une fois, pour être transparente, c'est un peu un hasard qu'elle soit à la fin, parce que le montage des séquences, enfin, en tout cas, l'ordre des séquences est fait tardivement, aussi pragmatiquement par rapport à ce qui était possible, au vu de qui lit quand, qui doit se changer quand.
D'accord.
Et finalement, ça devient une séquence de fin. Et là aussi, cette séquence-là, l'objectif n'est pas de montrer la libération de la femme ou quelque... c'est toujours un petit peu nuancé, je crois, dans ce que Laurence propose.
Oui, mais il y a des... Comme ça, ça pose beaucoup de questions, quoi.
Ouais.
Du regard de celui qui regarde un tableau. Qu'est-ce qu'il y voit ? D'ailleurs, le spectacle s'ouvre avec vous, les Lupo et Jean-Marie. Donc, il y a un tableau de Laetitien. Et vous êtes sur un fauteuil et vous commentez plus ou moins le tableau avec... il y a deux... Comment dire ? Deux approches de la lecture de ce tableau. Vous êtes sur le petit détail, vous cherchez les choses super compliquées, si on peut dire, pour faire avancer. Et les propos que dit Jean-Marie Champagne, c'est bon, plus simple, quoi. Enfin, c'est comment, face à un tableau, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce que ça évoque pour la spectatrice ou le spectateur. Voilà, c'est tout ce vaste champ de la représentation d'un tableau.
Oui, ben, Daniel Arras, avec ce texte, il parle d'une chose très précise, c'est la différence entre plusieurs façons d'étudier...
Un tableau,
donc avec un personnage qu'il étudie d'une manière très académique, on va dire, comme un peu ce qu'on pourrait apprendre aussi à l'école, à plus petite échelle, donc avec une analyse pure du tableau, des objets, de quelle époque était cet objet, donc qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et lui, Daniel Arras, il va comparer le tableau à d'autres tableaux pour essayer d'en tirer des conclusions... et pour voir comment le tableau a influencé un mouvement.
Oui. Comment un peintre s'est inspiré de notre peintre, mais à sa façon, après, à ajouter autre chose.
Voilà, exactement.
Ou à pas situer dans le même décor.
Oui.
Mais notamment, oui, ce tableau qui sert de base à ce texte-là, donc c'est la Vénus, le tableau est appelé la Vénus d'Urbain, parce qu'il a été peint à Urbain, une ville d'Italie, où il est situé là-bas, peut-être, je ne sais pas, donc par Titien. Et en fait, l'approche de Daniel Arras, effectivement, ce texte, il a écrit souvent dialogué, et en gros, il y a un des personnages, qui est celui que j'interprète moi, qui fait un peu, effectivement, figure de l'historien d'art, comme disait Lupo, très académique, universitaire, et l'autre personnage, qui est un peu la voix de Daniel Arras lui-même, qui c'est pas qu'il remet en cause l'iconographie ou l'histoire de l'art traditionnel, mais c'est qu'il apporte un autre type de regard, une autre type d'approche. Voilà.
En insistant sur des détails, en cherchant.
Mais en fait, il nous fait plonger dans le tableau, quoi. Parce que l'iconographie aussi se base sur des détails, mais elle cherche à élaborer un sens à un sens un peu pas externe au tableau, mais enfin directement lisible sur le tableau, un peu comme si le tableau voulait nous donner à lire directement quelque chose, alors que lui, il me semble, il va plus en profondeur, il analyse, et en fait en comparant avec notamment le tableau L'Olympia de Manet, dont du 19e siècle, plusieurs siècles après, effectivement, on se rend compte avec lui que Manet s'est inspiré directement de ce tableau de la Vénus d'Urbain. Et la comparaison avec Manet permet de voir que Titien, déjà à l'époque, a instauré une forme d'innovation, enfin d'expérimentation dans la construction même du tableau. Et une expérimentation qui modifie le regard du spectateur sur le tableau, et donc c'est quelque part une expérimentation à l'époque sur la représentation, sur le mode de représentation de la réalité, et du coup le rapport du regard avec l'activité du peintre, quoi, de la représentation. Et ça, c'est assez passionnant, quoi, de voir comment, en décortiquant les choses comme ça, il arrive à nous faire voir
certaines choses, certaines subtilités.
Voilà, certaines, peut-être. Alors, on n'a pas de texte, par exemple, de Titien expliquant qu'est-ce qu'il a voulu,
qu'est-ce qu'il a cherché,
qu'est-ce qu'il a expérimenté dans son tableau, par exemple, mais en le reliant avec d'autres tableaux du même peintre, voilà, il arrive à mettre en avant, à mettre en exergue certaines choses, quoi, qui à la première vue comme
ne
ça,
sont pas, ne sortent pas aux yeux, si on peut
dire.
On
s'y arrête pas du tout. Oui,
oui, c'est une, comment dire, oui, il y a une valeur pédagogique, quoi, de prendre le temps. Il y a ça aussi, ce rapport au temps, de ne pas dire « Ah oui, tiens, ça représente ça, c'est ça, ça veut dire ça », mais il y a quelque chose de plus approfondi et de plus subtil.
Ça ouvre à une réflexion, quoi, sur la façon de représenter dans l'histoire de l'art, quoi, et les recherches qu'ont fait les peintres et la façon dont ils ont modifié le...
Et comment ils se sont inspirés aussi de leur prédécesseur, parce qu'il y a toujours...
Voilà, tout à fait, oui.
On emprunte toujours à quelqu'un, si on peut dire. Et un aparté, ça n'a rien à voir, mais comme au début, j'avais oublié, c'est la maladie de Charcot. Donc, voilà, c'était maladie horrible. Pardon, c'était juste pour... pardon. Et donc, il y a ce tableau où vous, tous les deux, là, les deux garçons, vous entretenez, vous discutez, vous allez et venez sur la scène, parce que c'est vrai que selon qu'on soit tout près d'un tableau, des fois, ou très loin, bon, ça change. Et donc là, c'est là que le théâtre entre en jeu, puisqu'il y a quand même, vous avez deux rôles. Vous, le spécialiste, Loupeau, enfin, qui cherche à décortiquer, et puis vous, Jean-Marie, c'est celui qui voit, qui passe beaucoup plus vite, quoi. C'est simple, enfin, vous. C'est pas dit comme ça, mais enfin, vous le dites, quoi, qu'il n'y a pas midi à 14 heures à chercher, quoi.
Oui, oui, oui.
C'est pas avec ces mots-là, mais ça veut dire ça.
Oui, ce personnage-là se réfère donc plus à l'iconographie classique, et donc il estime que les choses sont beaucoup plus simples que ce que l'autre, Daniel Arras...
essaie de... mettre en perspective, relié à une époque, relié à des petits détails d'architecture aussi.
Et en fait, tout ce dialogue fictif écrit par Daniel Arras, puisque c'est comme ça qu'il l'a écrit, quoi, c'est sous cette forme-là.
D'ailleurs, vous avez le livre à la main.
Là, on est en lecture, oui. Mais en lecture, voilà, mise en
théâtralisé,
espace.
Théâtralisé, oui,
voilà.
Oui, c'est pas...
Jouer, on peut dire.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est théâtralisé, oui. Et d'ailleurs, je peux le dire, vous avez des lunettes très particulières pour ce...
Ah bon?
Bah oui, je vous ai croisé l'autre fois, mais sans ces lunettes. Je vous ai vu même des fois ici avec des lunettes, mais ce n'était pas celle-là.
Oui, oui, bon, là, c'est un peu des lunettes de scène, on va dire. Ce n'est pas des lunettes particulières qui permettent de voir différemment.
Non, non,
la peinture, mais c'est... c'est des lunettes de vue basiques.
Oui, mais elles ont un petit truc. J'aimerais savoir aussi, en ce qui vous concerne, là, ça, c'est un autre texte encore où, Loupeau, vous avancez sur scène et vous avez du mal à dire les mots. Enfin, ça doit être très soutenu comme exercice. À ne pas arriver à dire les mots correctement, alors que vous savez les dire correctement, il n'y a pas de souci, que vous revenez, vous voulez construire une phrase et puis vous revenez. Ce n'est pas du bégaiement, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Vous pouvez nous parler de cette phrase dans le spectacle, enfin, dans la... Pardon. Et je me suis fait avoir. Dans l'objet théâtralisé,
dans la proposition
artistique, picturale et théâtrale.
Oui, et ben, en fait, ce passage, il vient du module de Laurence. Donc au hangar, on a commencé par un module avec Laurence, c'est là où est née la figure de Marilyn avec la poupée et la voix.
D'accord.
Et donc ce passage-là vient aussi de là. Ça vient de... On avait des lectures avec des contraintes particulières et je me suis retrouvé donc à faire cette chose de mettre 10 minutes à dire une phrase.
Ok, d'accord. Oui, c'était un exercice de diction, de dire ça comme ça.
Oui.
D'accord.
Et c'est Laurence qui m'a fait reprendre cet exercice en le mettant sur pied. Donc debout.
Oui, oui.
Et, créant cette forme, cette proposition, Laurence a estimé que ça pouvait être intéressant de mettre ce passage-là qui dénote totalement à l'intérieur, qui est entrecoupé de deux lectures. Mmh. Voilà.
Mmh. Oui, puisque là, comme vous dites, vous êtes sur pied, mais vous allez, venez sur la scène, parce que vous avez l'impression que peut-être en reculant, ça sera mieux.
Oui,
vous respirez, enfin voilà, il y a tout ça, et puis ça repart. Et puis
c'est ça. En fait, c'est toutes les manières possibles pour réussir à dire une phrase.
Oui, oui.
Et l'incapacité de le faire.
De pouvoir la dire, Ouais. Je vais peut-être proposer juste que nous fassions toujours avec Albinoni, une petite pause musicale juste pour respirer, et puis nous reprendrons notamment autour de la poupée désarticulée.
Thank you.
Donc voilà, après ces quelques notes de Nalpinoni, nous allons reprendre. Je commence d'abord par vous, Héloïse, puisque vous aussi, vous êtes, vous évoquez la peinture de Léonard de Vinci, en disant, voilà, tous les, ceux qui au départ aussi vous étaient pas apparus, et puis qu'après en creusant, et puis que vraiment plus vous creusiez, si on peut dire, plus vous aviez envie de chercher, telle une archéologue. Et donc il y a comme ça cette cette prestation où comme ça aussi vous êtes sur scène, vous faites les 100 pas en parlant de la peinture
et de la Joconde.
Oui, de la Joconde, oui, excusez-moi. Et de ce que ça signifiait et que ça aurait pas pu... Enfin, à qui c'était, dans quelles circonstances ce tableau avait été peint, enfin voilà. Vous voulez en dire
Oui, avec plaisir. J'étais très heureuse quand Laurence a retenu ce texte que j'avais lu lors des répétitions. Mmh. Et en fait, donc, c'est en effet un texte relativement long dans lequel Daniel Arras explique tout ce qu'il a traversé en étudiant cette peinture. Et notamment, il est passé par le fait de ne pas pouvoir l'aimer pendant plus de 20 ans. Et moi, ça m'a parlé tout particulièrement parce que j'ai beaucoup vu cette peinture au Louvre, à une époque où j'y allais beaucoup, et je ne l'ai jamais regardée.
Donc,
elle ne m'a jamais intéressée. Et du coup, c'était intéressant de voir...
tout ce qui pouvait s'y cacher.
Tout ce qui s'y passe et d'essayer de comprendre, en effet, pourquoi aujourd'hui on dit que c'est le portrait des portraits et qu'il s'y passe... En fait, il s'y passe vraiment beaucoup de choses. Et du coup, je suis ravie d'avoir pu... Enfin, je pense que la prochaine fois que j'irai voir la Joconde, maintenant, ce sera tout différent.
Vous la regarderez d'une autre manière.
Oui, tout à fait.
D'accord. Donc, ça, c'est... Là, vous êtes vêtue de noir.
Oui, mes souvenirs sont absolument. Bons.
Donc, après, vous partez en coulisses. Et puis, vous revenez avec Marine. Toutes les deux, là, vous avez, vous, changé de costume?
Non, voilà. Pas encore.
Pas encore
En fait,
c'est plus tard quand vous êtes un noir.
Exactement, je suis vêtue de noir, en fait, justement pour être marionnettiste.
D'accord.
Pour qu'on me voit moins que la poupée. Et du coup, sur la première séquence où Marine et Marilyn, je sors même pas des coulisses. En fait, je finis avec cette phrase qui dit « Donc, la Joconde est effectivement une méditation profonde sur le temps ». Et là-dessus, Marilyn fait son entrée.
Entre, oui, d'accord. Oui.
Et je me place tout de suite derrière elle pour commencer la manipulation de cette poupée Marilyn Monroe.
Une poupée désarticulée. Enfin, c'est étonnant tout le travail que vous faites parce que cette Marilyn, donc, qui comme ça, est manipulée, c'est le cas de le dire. Mais bon, quand on renvoie à l'histoire de Marilyn, c'est pas que la manipulation physique, quoi. Il y a la manipulation mentale, ce qu'on a fait, ce qu'on a voulu en faire, et son essence de femme qui a été oubliée, quoi, parce qu'elle était blonde, et qu'on lui a collé certaines choses qui n'avaient rien à voir. Et c'est impressionnant, c'est assez terrible, je trouve, sur scène. Et à vous voir, vous, Marine, comme ça, vous êtes comme si vous étiez une marionnette, puisque par définition, une marionnette, bon, le ou la marionnettiste fait bouger la marionnette à son gré. Et là aussi, Héloïse vous fait soit lever un bras, soit vous tourne la tête, soit, soit elle incline votre corps, soit vous faites... Enfin, il y a tout ce travail où vous pouvez m'expliquer comment vous avez procédé et puis comment vous le ressentez. Parce que moi, personnellement, en tant que spectatrice, ça a été le moment le plus difficile pour moi. Parce que c'est cette poupée désarticulée, quoi, fait, dont on se sert. Et c'est aussi, ça renvoie aussi à une représentation de la femme dans une société patriarcale. En fait, ça peut évoquer, ça peut déboucher sur beaucoup de questionnements. Alors, je vous laisse en parler.
Est-ce que tu veux que j'explique comment ça s'est passé ou tu veux dire comment?
Moi, je peux. Vas-y, dire. En fait, on a d'abord fait un exercice à l'école au hangar où elle nous a proposé de faire ce rôle de marionnettiste. Mmh. Et c'est là que j'ai découvert cet exercice et que j'ai adoré de suite.
D'accord.
Et donc, je ne sais pas trop les techniques pour pouvoir faire ça, juste me mettre au service de quelqu'un qui va me faire bouger à ma
son
place,
gré,
voilà, son gré. C'est un peu venu naturellement et juste avec Héloïse aussi, on se comprend bien à ce niveau-là.
Ah oui, vous êtes collées pratiquement l'une à l'autre, quoi. En plus, des fois, elle vous soulève, elle fait de vous, entre guillemets, ce qu'elle veut, quoi.
Voilà,
si elle décide de vous poser par terre, elle pose par terre. Si...
Voilà, c'est ça. Ça demande d'avoir une confiance entre nous, qui est là. Donc,
effectivement, voilà.
Et plus elle est proche, justement, plus je peux sentir et comprendre vers où elle veut m'emmener.
Oui, bien sûr, il y a le contact, le toucher. Oui.
D'accord. Et ensuite, le fait de faire Marilyn, en fait, moi, je me mets vraiment dans un état d'esprit deux poupées, c'est-à-dire neutres. Même mes yeux sont comme dans quelque chose de flou ou d'inerte. Et du coup, je ne me mets pas dans des pensées de qu'est-ce que je représente, qu'est-ce que ça peut créer à ce moment-là, parce que sinon ça me ferait sortir de l'état.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui, des fois aussi, elle vous fait sourire aussi, mais de façon particulière.
Oui.
Comme un sourire qu'on veut, un sourire papier glacé, entre guillemets.
Oui. Et ça peut être troublant, d'autant plus qu'en restant les yeux ouverts, ça peut me faire pleurer. Et donc le sourire avec la larme qui coule et sans bouger, ça peut aussi... ça peut aussi être vu de manière assez forte.
Non, mais c'est très, très, très troublant, je trouve. Enfin, et ça aussi, ça, c'est une... Comment dire? Puisque, bon, Marilyn était comédienne, je crois qu'elle a... Enfin,
et chanteuse.
Oui, mais elle a fait... Elle a joué au théâtre aussi, il me semblait. Très peu, il me semblait. Et puis, bon, elle avait le corps qu'elle avait, mais enfin, aux yeux de certaines personnes, ça induisait certaines choses, alors que qu'elle, du plus profond de son intimité, elle était autre, quoi. Elle n'était pas ce que les yeux des phallocrates voyaient, quoi. Enfin, pour faire simple, je simplifie un petit peu, mais... Et puis, elle a été quand même utilisée. Enfin,
Je crois que Lupo en parle, d'ailleurs, dans le texte que tu dis en italien en même temps. Je ne sais pas si tu peux traduire.
Ouais, bah c'est le texte de Pasolini, c'est exactement ce que vous dites. Donc, c'est... Bref, c'est ça, c'est un texte qui parle de ça et qui décrit absolument la même chose.
Et c'est pour ça que Laurence a décidé, quand on a fait le travail de la poupée, avant que la séquence existe, ça ressemblait pas encore à ça, et petit à petit on s'est fixé sur aller de posture en posture. En fait, c'est une succession de postures. La poupée n'est pas vivante, elle prend pas vie, beaucoup moins que dans la dernière séquence. Et du coup, à travers cette chose-là de une posture, un déplacement, une posture, un déplacement, on montre vraiment comme des flashs d'une vie. Et on se rend bien compte qu'on n'a que l'image de cette vie-là et non pas de l'intérieur.
De l'intégrité de la personne.
Exactement.
Quoi. C'est juste un morceau dans une boîte.
Quoi. Voilà, exactement. Enfin, c'est exactement ce qu'elle souhaitait montrer.
Ouais. C'est un membre qu'on... Enfin, c'est vraiment... Oui, et après, donc ça, c'est la première phase, si on peut dire. Alors, c'est après, excusez-moi, j'allais trop vite, que vous changez de costume, si on peut dire. Et où là, c'est encore... Elle n'est plus en Marilyn, enfin, elle n'a plus la perruque blonde. Mais là, on entend le son de votre voix, Marine, de façon très... C'est aussi impressionnant. Enfin, c'est plus de l'ordre du cri. Et aussi, enfin, je ne veux pas tout dire, mais bon. La façon aussi dont vous la manipulez, entre guillemets, c'est aussi un peu dur aussi. Vous pouvez en parler ?
Juste, je vais parler du côté manipulatrice, tu pourras parler de l'autre côté. Oui, c'est délicat, je pense qu'on peut le dire quand même pour pouvoir savoir de quoi on parle. Et à un moment, j'ai la main dans les cheveux de Marine et je lui tape la tête contre un mur sans toucher le mur.
Et vous vous attrapez les cheveux
comme... Et je lui attrape les cheveux pour que sa tête
comme des fois des enfants font quand ils se disputent dans la cour de récréation, parce que des fois ils ne sont pas très tendres entre eux.
Complètement. Et bien là, ça demande beaucoup, beaucoup de confiance. Et en fait, c'est marrant parce que c'est presque un sujet qui n'existe pas. Bon, on en parle, mais parce que c'est très simple, c'est très fluide avec Marine. Tu me reprends si je c'est pas vrai, mais en effet, c'est un moment où en fait, il faut qu'elle soit à 100% disponible pour bien ce que je propose, parce que s'il y a
le moindre écart,
ça fera une tension, un choc, soit de nos mains, ma main contre sa tête, soit sa tête contre le mur, par exemple. Donc c'est un moment un petit peu délicat, mais il s'avère que Marine est ultra, ultra à l'écoute de tous les micro-mouvements que je propose, donc ça permet d'être soit fluide.
En symbiose, pratiquement.
Oui. D'accord. Ce qui n'empêche pas que c'est un moment à chaque fois particulier... c'est pas évident de faire ça. Enfin, c'est-à-dire que je me rends compte de ce que ça renvoie et tout, et du coup, voilà, c'est un moment en particulier.
Oui, parce que c'est du spectacle vivant, donc on le voit, vous le faites, on vous voit faire. Enfin, je veux dire, c'est pas du trucage, quoi. Donc,
non, tout à fait.
C'est assez particulier aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec Héloïse. En effet, si je résistais, je pense que ça pourrait me faire l'effet qu'elle me tire les cheveux, par exemple, parce qu'elle les prend vraiment de toute sa main. Alors, il faut juste que je suive vraiment.
Oui, je comprends.
Mais ça me permet aussi de pouvoir vraiment tout lâcher. Juste, je garde mon centre intérieur pour tenir.
Je comprends.
Et donc, du coup, la laisser vraiment m'emmener dans tous les côtés. Parce que là, cette poupée, elle bouge beaucoup plus. Mmh. Et oui. Donc, du coup, c'est oui. important qu'il y ait vraiment une direction d'assurer derrière. Et le petit challenge de plus, c'est que comme la poupée parle cette fois, et ben ça demande de pas humaniser la poupée. C'est tout un travail de rester poupée jusqu'à ce qu'il y ait une voix qui sorte.
Au niveau des muscles, tout un travail, voilà, des muscles faciaux. Oui. Oui, c'est comme les poupées jouets qui parlent, qui font des choses, enfin, dans leurs limites. Ah, mais c'est tout un travail. Et vous, pour les porter, oui, vous m'avez dit que pour vous, c'était assez simple.
Ben, je vous disais que j'ai fait beaucoup de rugby. Mmh. Alors,
mais c'est vrai c'est...
Ah oui, c'est vrai. D'accord. Oui, je pense que c'est ce qui permet que ce ne soit pas un sujet compliqué.
Mmh. D'accord.
Elle n'est pas très lourde.
Non, et puis vous êtes à peu près à la même taille, à quelque chose près. D'accord. Et donc maintenant, j'aimerais bien que nous parlions, même si je comprends, mais je préfère que ce soit vous qui le disiez, du texte Pasolini, que d'abord vous dites à l'italien, après vous finissez en français. Mmh. Hein, si mes souvenirs sont bons.
Alors le texte en français, c'est pas Pasolini.
Ah pardon.
C'est Frédéric Chopin.
Ah oui, d'accord, excusez-moi. Ah oui, c'est quelqu'un déjà avec qui Laurence Rioux aime bien travailler.
Enfin, en tout cas, oui, mais on l'a programmé à plusieurs reprises pendant le Festival des Bruits Sonnantes. Ah, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, on aime beaucoup son écriture. C'est une personne très chouette aussi.
Donc oui, Pasolini.
Oui, eh bien le texte de Pasolini, c'est un texte qui est issu du film La Rabbia. Voilà. Et ben, ça rejoint ce que vous avez dit. En fait, le texte, il parle de... du capital et de la possession des choses.
Qui était, comment dire, quelque chose qu'aimait bien développer Pasolini, oui, quoi, parce qu'il avait un engagement politique et qu'il traduisait dans ses œuvres, différentes œuvres artistiques.
Pardon. Oui, voilà, non, exactement, c'est ça. Et donc, et là, il ciblait sur un sujet précis, donc Marilyn Monroe, et comment ce monde-là, ce système-là, cette manière de fonctionner a transformé Marilyn Monroe. En fait, il part au début en disant que Marilyn Monroe est née en étant belle, mais en fait, comme tout le monde, née en étant beau et belle parce qu'on est naturel, pur, enfin, des êtres humains, et comment le système a transformé qui elle était en une offre qui répond à une demande, et donc comment elle est devenue laide. Il dit « Il mondo te l'ha insegnata così la tua bellezza divenne sua ». Ça veut dire « Le monde t'a enseigné à être belle, alors ta beauté est devenue celle du monde ». Donc, ce n'était plus de la beauté.
Oui, ce n'était plus elle, ce n'était plus son.
Voilà. D'accord. Donc, effectivement, ça traite ce sujet-là à 100%, quoi.
Mm-hmm. Oui, il y avait les mots de Pasolini qui sont toujours très forts, si on peut dire.
Oui, oui.
Et très aiguisés aussi.
Oui, je suis d'accord.
Et comme il avait vraiment une... comment dire... Oui, un engagement politique très fort. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il ne l'a pas payé de sa vie. Enfin, je ne sais pas, mais... Voilà. D'accord. Vous avez, par rapport à ça, vous voulez réagir, les deux autres comédiennes et le comédien, par rapport au texte de Pasolini, et après au texte de Soumagne aussi. Comment tout cela s'agence et comment tout cela fait, même si vous, au début de l'interview, vous disiez qu'il n'y avait pas comme ça des choses bien précises, bien, comment dire, épinglées en tant que telles, mais enfin, il y a des choses... Il y a quand même des choses qui se rejoignent et on voit un peu un fil, quoi, qui...
Moi, je vais réagir peut-être pas sur le propos de ce texte-là, mais sur plutôt, là, encore une fois, une forme de superposition des choses, c'est-à-dire qu'on a d'un côté Marilyn, la poupée, la marionnettiste, ensuite on a la musique derrière de ce film, et puis Laurence aurait pu garder la voix de Pasolini, enfin en tout cas la voix le film de Pasolini, ça aurait été une bande de son correcte, et en fait elle a décidé que ce soit Lupo qui lise ce texte, et du coup on a un peu ces trois choses qui coexistent, de manière relativement indépendante, parce que rien n'est fixé. Donc, c'est-à-dire que sur les tempos et les rythmes, la poupée est à son rythme, la musique fait son truc, et Lupo fait son truc.
Et aussi.
Voilà, et du coup, c'est une forme de... à chaque fois, la rencontre est différente. Oui. Et hier, on en parlait en sortant du spectacle avec Jean-Marie, qui disait typiquement qu'hier, il y a eu des points de rendez-vous qui sont... Enfin, des moments qui sont... où tout s'est réuni, et c'est presque de l'ordre du hasard, et je pense que chacun et chacune dans cette partition-là, on est à l'écoute, on a comme une... une alerte, quelque chose qui est ouvert et qui nous permet d'être à l'écoute de ces choses-là. Et en fait, c'est comme si on travaillait à côté, mais pour faire que ça fasse
oui,
sans union.
Que ça aille, oui, voilà. Ça se rejoigne à un moment donné. Qu'il y a quelque chose. Oui, d'accord. Oui.
Bah, c'est vrai, quand on travaille un matériau comme ça, bon, là, même si on n'a pas énormément répété, mais enfin, cette scène-là, vous l'aviez travaillée quand même dans le module avec Laurence au hangar. Mais du coup, ouais, c'est ce que tu disais, un peu, c'est un peu comme si à l'intérieur, on n'est pas forcément conscient exactement qu'on se retrouve à des moments de rendez-vous comme ça, mais c'est un peu comme une espèce d'écoute subliminale qu'on a, enfin, qui...
Ouais, exactement.
Je sais pas, un peu exagéré.
Oui, très
comme
non, exactement. Très, oui.
Qui fait que voilà, à un moment donné, on
tout
est dans...
Cela peut fonctionner et peut...
Voilà, dans un tempo qui rejoint le tempo de l'autre, le tempo de la musique, le tempo de... Voilà. Des moments un peu... pas magique, mais où des fois ça se passe pas au même moment, ça écrit un peu différemment du coup, mais en tout cas ça existe quoi.
D'accord.
Et pour dire oui, en gros, après c'est vrai qu'en en parlant comme ça, bon, ça a l'air un peu de matériaux, tout ça un peu hétéroclite, mais en fait quelque part il y a des liens qui sont d'une part volontaires de la part de Laurence, parce que ne serait-ce que le premier texte qu'on commence à lire avec Lupo, justement voilà, le Daniel Arras compare la Vénus d'Urbain de Titien, donc qui date du 15e ou du 16e siècle, à une pin-up, c'est-à-dire et là on voit apparaître une photo de Marilyn nue,
oui, dans une
prenant,
position bien précise,
voilà, dans le une position typique, on pourrait dire, de la pin-up de cette époque, quoi, des années 60 ou peut-être 50 même, je ne sais pas. Qui est en plus, d'après ce que je pense, c'est une époque où elle faisait du mannequinat comme ça, elle n'était pas encore connue comme la star, puisque d'ailleurs sur ces photos-là, il y a toute une série comme ça, là on n'en montre qu'une, mais elle n'a pas sa chevelure blonde platine décolorée comme ça, elle a... sa chevelure plus proche de sa teinte naturelle, voilà. Bon, enfin, tout ça, c'est un peu des échos qui se font. Et comme le texte que dit Lupo, la phrase là, qu'il a du mal à arriver à restituer dans sa construction, à la fois syntaxique et puis et phonétique, voilà, il lui faut 5 minutes pour arriver à dire cette simple phrase. Mais quelque part, ça peut renvoyer aussi justement à certains passages du texte de Daniel Arras où justement il dit que c'est difficile de trouver les mots pour parler de... la phrase de Lupo n'a rien à voir avec l'histoire de l'art ou avec la représentation en général, mais en tout cas, on peut trouver aussi des échos comme ça qui se font d'un texte à l'autre, d'une proposition à l'autre, qui sont pas forcément volontaires de la part de Laurence.
Oui, mais des passerelles comme ça qui peuvent s'établir.
Voilà, oui, des passerelles,
des coïncidences,
des échos.
D'accord. Et pour la petite histoire, Daniel Arras avait fait des chroniques pour France Culture.
Oui.
Et donc Laurence m'a dit hier soir qu'elle s'était, enfin, qu'elle avait flashé comme ça sur ses conférences et que ça lui a beaucoup donné envie de travailler avec les textes de cet auteur, qui était donc historien d'art, pardon.
Voilà, tout à fait. Ben, je crois que c'est comme ça, si j'ai bien compris, c'est comme ça qu'elle l'a découvert, quoi, en l'entendant sur France Culture, des textes assez courts, quoi. Je crois que ça faisait un format de 20 minutes, où il était...
Il détaillait comme ça une approche ou...
Voilà, sachant que, bon, voilà, c'était pour... à la radio, donc il n'y avait pas les images.
On imagine.
Mais du coup, ça... voilà,
ça a une autre portée.
Voilà, ça a appelé, ça a amené justement à évoquer les images et à aller les voir et à les regarder d'une façon autre aussi.
C'est la magie de la radio.
Tout à fait.
Le son. Non, mais il y a le son qui en dit beaucoup et... Non, mais c'est vrai, c'est pas...
Ben oui, oui. Ah ben oui, là. Exactement.
Donc, vous êtes en... Vous jouez encore ce soir, vendredi, demain soir, samedi, à 21h. Ah oui, j'ai oublié de dire en tout début, donc c'est au Théâtre du Grand Rond, et c'est dans la proposition d'échange, si on peut dire, entre le Théâtre du Grand Rond, donner carte blanche au hangar pendant 5 ans, c'était
voilà, ça. Voilà, là, je crois que c'était la 5e année. Ouais. Ouais.
Voilà. Et donc, chaque fois, il y avait une proposition émanant du Théâtre Hangar Nouvelle. Et cette année, donc, c'est Laurence Serioux avec sa compagnie et ses jeunes élèves et son compagnon de route pour différentes rencontres artistiques, Jean-Marie Champagne. Et dont les réservations se font au Théâtre du Grand Rond. Et c'est à 21h.
Tout à fait.
Je crois que nous avons fait le tour.
Et c'est la compagnie de Rosa.
Oui. J'ai dit la Rosa, non, peut-être.
Oui, oui, il me semble.
Oui, oui, bah oui, je me suis trompée, évidemment. Il fallait bien que je me trompe une fois ou autre. Merci. Merci à tous les quatre.
Merci, merci beaucoup.
Merci.
Merci,
merci Germain.
Merci, Germain.
Merci. Au revoir.